Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
RTL Midi, effectivement, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs et l'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Rebonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, les non-vaccinés reconfinés en Autriche. Airbus qui retrouve des couleurs après un méga contrat. Et puis on ne s'en était même pas rendu compte, mais figurez-vous que le drapeau français a changé de couleur.
Effectivement, il est bleu marine. Retour sur ce nouveau confinement en Autriche. Faudra-t-il donc en faire autant en France? Et puis le pouvoir d'achat. Comment augmenter les salaires? Le député de La République En Marche, Sylvain Maillard, sera l'invité d'RTL. Il est déjà là d'ailleurs, il va nous écouter en ce début de journal.
Notre question du jour sur RTL.fr, comme en Autriche, seriez-vous d'accord pour reconfiler les non-vaccinés? Vous dites oui à 63%. La météo du jour, c'est avec vous Louis Baudin. Bonjour Louis.
Bonjour Amandine.
Bon, c'est bien bien sombre.
Ouais, hein. Oui, c'est la prévision est simple à faire. Hein. Je mets des nuages partout. C'est bien. Je suis à peu près sûr d'avoir raison. Avec quelques éclaircies, alors, il y en aura un petit peu peut-être du côté de la Bretagne. Et puis près de la Méditerranée, attention, là on a beaucoup d'instabilité avec des averses accompagnées d'orages, de la neige. Elle devrait tomber dans les Alpes à partir de 1500 mètres sur les Pyrénées-Orientales. Et puis attention au vent également, hein, qui devrait dépasser les 100 km/h pendant quelques heures sur le littoral de la Côte d'Azur. Tout ça amènera une mer de plus en plus démontée. Le tout avec des températures en baisse par rapport à ce week-end. 8 à 12 degrés, pas plus dans la plupart des régions. 12 à 16 degrés quand même près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis. Programme détaillé de la semaine, ce sera à 13h.
RTL Midi.
En attendant, direction donc Vienne. Depuis ce matin, comme dans toute l'Autriche, les non-vaccinés sont priés de rester confinés. La mesure est entrée en vigueur à minuit, la nuit dernière, Valentin Boisset.
Oui, et les contrôles ont déjà commencé dans le centre-ville, comme pour moi ce matin.
Je dois tout vérifier, passeport et passe vaccinal.
Environ 30 000 policiers sont déployés dans le pays, des contrôles inopinés du pass sanitaire en pleine rue, donc tout est en ordre pour moi.
Thank you.
Mais Janice, elle n'est pas vaccinée. Elle n'a donc le droit que de marcher dans la rue pour se dégourdir. Elle observe une vitrine de magasins de vêtements. Désormais, plus question d'y entrer.
Depuis hier, je n'ai plus le droit d'entrer au restaurant ou dans tout autre magasin. Je vais faire mes courses en ligne. C'est pas bien. On nous fait revivre à nous le confinement d'il y a 2 ans.
Un peu plus loin, une longue file d'attente d'environ 200 personnes s'étend devant un préfabriqué. Pour certains, la galère est celle du travail. Matteo n'est pas vacciné. Il découvre un nouveau rituel pour les prochaines semaines.
Ça, c'est la queue pour se faire un test PCR. Ça devient compliqué quand vous travaillez. Je dois en faire un par jour maintenant. Je suis dans la restauration et c'est dur.
Jusqu'ici, le jeune homme n'avait pas pris le temps d'aller se faire vacciner. Par fainéantise, avoue-t-il. Il ira cet après-midi, après son service, au vaccinodrome de Vienne.
Valentin Boisset, envoyé spécial d'RTL en Autriche. L'Autriche où 65% de la population est à ce jour vaccinée. On est à 75% ici en France. Chez nous aussi, le nombre de cas continue de progresser, mais dans une moindre mesure. La majorité ne souhaite pas reconfiner. C'est ce qu'a dit ce matin Christophe Castaner, le patron des députés La République En Marche, précisant toutefois que toutes les hypothèses sont sur la table.
Un nouveau serrage de vis est-il inéluctable? On va poser la question au professeur Antoine Flahaut dans moins de 10 minutes.
Je vous rappelle par ailleurs que le masque, lui, a fait son retour à l'école. Partout, dans tous les départements, et ce depuis ce matin, il est à nouveau obligatoire à partir de 6 ans. Toujours à propos de santé, ce rapport de l'Union européenne de l'environnement, la pollution de l'air continue de tuer, mais moins qu'avant, 3 fois moins qu'il y a 30 ans, Virginie Garin.
Oui, alors elle a quand même tué plus de 300 000 personnes en 2019, dont 29 000 en France, et plus de la moitié de ces décès auraient pu être évités si les normes sur la qualité de l'air étaient respectées partout, explique l'agence européenne. Donc c'est encore trop, mais on peut voir le verre à moitié plein. La pollution tuait 1 million de personnes en Europe en 1990, donc il y a eu des efforts et ils ont porté leurs fruits. Les moteurs des voitures polluent moins, les réglementations européennes ont durci les normes, et puis la mise en place dans les villes de zones à faible émission, on réduit la place de la voiture, et bien c'est efficace, ça se voit dans les pays du Nord, Norvège, Suède, Finlande, qui l'ont fait bien avant nous. Leurs villes sont tout en haut du classement où l'on respire mieux. La France est plutôt en milieu de classement. La France qui est poursuivie par l'Europe pour ne pas respecter les normes dans ces grandes villes, mais ça avance quand même. 3 métropoles, celles de Paris, Lyon et Grenoble, ont déjà des zones à faible émission. Il y en aura 7 autres cette année.
Explication signée Virginie Garin. Autre bonne nouvelle sur le front raisons économiques. Cette fois, avec ce méga contrat pour Airbus, 255 à 321 pour 4 compagnies aériennes. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Ça y est, le secteur aérien redémarre.
Alors disons que c'est très encourageant en effet, car les commandes à 33 milliards de dollars alors que l'aérien n'est pas totalement sorti de la crise, c'est une excellente nouvelle pour l'avionneur européen et le secteur en général. Dans le détail, ce sont donc 4 compagnies qui ont passé commande, la hongroise Wizz Air, l'American Frontier Airlines, la mexicaine Volaris et la chilienne JetSmart qui se sont alliées pour acheter en gros et donc payer moins cher. Le but de ces compagnies, c'est d'avoir en fait des avions neufs et d'être prêts pour la reprise en 2025. La plupart des acteurs s'accordent pour dire que le trafic aérien devrait revenir à la normale cette année-là.
Et si on regarde plus loin, là aussi, il y a des raisons d'être optimiste.
Absolument, car Airbus a communiqué ses projections pour les prochaines années et le constructeur prévoit une demande de 39 000 avions neufs d'ici à 2040. Ce sont majoritairement des appareils court-courrier qui arrivent en tête des intentions d'achat. Airbus mise aussi sur le renouvellement des flottes des compagnies qui souhaitent consommer moins. Boeing, pour le moment, est à la peine, mais espère aussi une méga commande d'ici la fin de l'année.
Arnaud Touche, spécialiste des questions de transport ici à RTL. C'est une première depuis le début de la crise sanitaire. La mortalité sur les routes repart à la hausse, plus 14% au mois d'octobre, comparé au même mois de 2019. 294 personnes ont perdu la vie, soit 37 de plus qu'il y a 2 ans. Dans les Ardennes, nouvelle opération de fouilles pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, la 8e depuis juin 2020. Les recherches menées dans un bois ont débuté ce matin sur une parcelle jusqu'ici non exploitée.
Autre chose à présent, François Fillon, de retour devant la justice.
Avec le début cet après-midi du procès en appel de ce qu'on a appelé le Penelope Gate. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Vous êtes au palais de justice de Paris pour RTL. Tout l'enjeu pour l'ancien Premier ministre, c'est d'éviter d'aller en prison.
Absolument. Aujourd'hui, François Fillon risque jusqu'à 10 ans de prison. Au premier procès, il s'en est fallu de peu. Le tribunal l'avait condamné à 2 ans ferme, mais sans mandat de dépôt. Et puis, l'ancien Premier ministre avait décidé de faire appel. Cet après-midi, il va donc comparaître libre. Libre et combatif, promet son avocat. Mais à moins d'un coup de théâtre, la tâche s'annonce rude. François Fillon va devoir prouver que sa femme n'a pas été payée à rien faire, jusqu'à 5 900 € par mois. Mais pour quelle activité? Pénélope Fillon elle-même a eu bien du mal à expliquer précisément ce qu'elle faisait. Rien, aucune preuve concrète de son travail n'a pu être retrouvée. Alors certes, certains ont pu la voir ponctuellement à un repas des anciens ou à un tournoi de belote, mais tout cela relève-t-il de son rôle d'épouse d'homme politique ou bien d'un vrai travail d'assistante parlementaire? La Cour a 15 jours pour trancher.
Cindy Hubert en direct de la Cour d'appel de Paris, début donc de cette audience dans une heure maintenant. Ça fait plus d'un an qu'on l'avait sous les yeux et personne n'avait rien remarqué. Emmanuel Macron a modifié le bleu de notre drapeau français. C'est un bleu marine plus foncé qui apparaît désormais derrière le président lorsqu'il s'exprime. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Alors, c'est une info étonnante qui pose plein de questions. Comment fait-on pour modifier les couleurs d'un drapeau et puis surtout pourquoi le chef de l'État a pris une telle décision?
Info un peu incroyable, en effet inattendue. Alors, plusieurs points à vous préciser. D'abord, ce changement de bleu, il concerne pour l'instant uniquement les drapeaux qui pavoisent l'Élysée, l'Assemblée et ceux qu'on installe derrière le président quand il parle. Ensuite, il n'y a pas eu et il n'y aura pas de décret envoyé aux 36 000 maire de France pour qu'il fasse pareil. C'est Emmanuel Macron qui a pris cette décision tout seul avec son conseiller en image. Et l'Élysée explique que si quelqu'un a changé le drapeau, en fait, c'est plutôt Valéry Giscard d'Estaing. C'est pas nous, c'est Giscard. C'est pendant son mandat que le bleu était devenu plus clair, plus flashy, bleu cobalt, assorti au drapeau européen. Donc là, c'est un retour à l'original, en quelque sorte, retour aux couleurs de 1793 et de la Convention. C'est le bleu de la France libre, m'a-t-on dit à l'Élysée tout à l'heure. Alors c'est quand même surprenant de s'éloigner du bleu européen au moment où la France va prendre en janvier la présidence de l'Union. Mais on nous assure au Palais qu'il ne faut pas faire d'interprétation politique derrière ce choix.
Ben merci William pour toutes ces informations. William Galibert du service politique d'RTL. Et puis c'est sans doute le cri du jour, écoutez. Vous ne le reconnaissez pas ? C'est Novak Djokovic. Explosion de joie hier devant sa télé, hier soir après la qualification de la Serbie pour le mondial de foot au Qatar. Qualification sur le fil, hein, la toute dernière minute. Les Serbes ont battu le Portugal 2-1.
William Galibert qui, du coup, a mis un maillot bleu aujourd'hui pour venir...
Un maillot, vous dites un maillot, c'est un t-shirt ou un pull?
Un t-shirt, vous avez parfaitement. Mais le bleu cobalt, c'est une nuance de bleu que je ne connaissais pas, le bleu cobalt. C'est donc le bleu giscardien, nous sommes d'accord.
Oui, c'est ça.
Bleu... Et là, c'est le bleu de De Gaulle, le bleu du général De Gaulle.
Un peu plus foncé.
On va parler du confinement dans un instant. Faudra-t-il en faire autant en France? En tout cas, est-ce qu'il y aura de nouvelles mesures restrictives? On va être avec le professeur Antoine Flahaut. À tout de suite.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
C'est une mesure inédite en Europe et parmi l'une des plus sévères au monde.
Confiner seulement les non-vaccinés, une mesure polémique choisie par l'Autriche face au rebond de l'épidémie de Covid.
L'Autriche qui reconfine les non-vaccinés.
Oui, décision inédite là-bas pour contrer l'épidémie qui flambe.
Nous étions sur place tout à l'heure dans le journal. En Autriche, depuis ce matin, non-vaccinés riment là-bas avec confinés. Alors, est-ce la bonne solution pour faire face au rebond de l'épidémie? Est-ce envisageable ici en France? Et surtout, est-ce que cela serait possible? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour, professeur Antoine Flao. Merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes, je le rappelle, épidémiologiste. Vous dirigez l'Institut de Santé Globale à Genève. Confiner uniquement les non-vaccinés, c'est une bonne solution?
Oui, bonjour. Vous savez, dans le fond, c'est ce que font les Français avec le pass sanitaire, d'une certaine façon, hein, puisque les non-vaccinés et non-testés n'ont plus accès aux bars, aux restaurants, à toute la vie sociale, culturelle, festive, sportive, au transport public même. Donc, quelque part, ils sont confinés. Donc, c'est une façon peut-être un petit peu équivalente à un confinement qui a été opéré depuis le 9 août en France, mais aussi par les Italiens avec le Green Pass et aussi par les Suisses actuellement.
Il est efficace à vos yeux ce pass sanitaire? On voit que les chiffres ici en France remontent.
Alors la France, l'Italie sont des pays qui, pour lesquels les digues tiennent le mieux finalement en Europe. Les chiffres en France sont quand même à peu près 3 à 4 fois inférieurs à ceux que l'on a chez les voisins des pays germanophones, sans parler de l'Autriche qui est encore plus haut, ou des Pays-Bas. Donc quelque part on a l'impression que le pass sanitaire, lorsqu'il a été appliqué avec rigueur, a permis d'une part de booster la couverture vaccinale, ça c'est très clair, mais il a également permis de reprendre la main sur la vague estivale et de tenir un petit peu plus longtemps les digues que les autres pays qui n'avaient pas mis en œuvre ce pass sanitaire. Alors il y a des pays qui ont une très très forte couverture vaccinale comme l'Espagne et le Portugal et qui sont dans une situation voisine de ceux qui ont le pass sanitaire. Donc il n'y a pas qu'une seule martingale et je ne pense pas par ailleurs aujourd'hui que ce pass sanitaire sera suffisant pour maintenir très longtemps la digue. On voit bien qu'elles sont en train de craquer ces digues en Italie comme en France et que la vague atteint à son tour ces pays.
Professeur Flao, vous nous dites que le pass sanitaire ne sera sans doute pas suffisant. Ça veut dire qu'il va falloir faire quoi? Reconfiner?
Alors, si l'on prend comme outil de prévision, que j'appellerais plutôt d'anticipation, ce qui se passe à l'extérieur des frontières françaises, ce qui se passe en Autriche, ce qui se passe, je parle pas des pays de l'Est ou des pays d'Europe centrale, parce que la couverture vaccinale est vraiment très très différente de celle de la France. Ce qui se passe aux Pays-Bas, qui a une couverture vaccinale similaire à celle de la France. Ils connaissent une vague qui est plus importante que celle qu'ils n'ont jamais connue depuis le début de la pandémie. Et ils connaissent une remontée des hospitalisations et une remontée de la mortalité. Donc oui, je pense que le pass sanitaire risque de ne pas être suffisant pour contrer cette
forte
vague.
Et oui, il faudra reconfiner.
Non, pas nécessaire.
Mais mesures restrictives, par exemple, couvre-feu, pourquoi pas
Alors, je pense que il y a une grande, grande urgence à agir, mais tout n'est pas fait aujourd'hui encore, notamment en France, mais je crains malheureusement dans toute l'Europe, pour éviter des transmissions. La mesure la plus efficace, elle n'est pas restrictive, c'est la ventilation. Si on arrivait simplement à interdire que l'on puisse se réunir dans des locaux fermés quand il y a plus de 1000 ppm, je pense que ce serait une des mesures...
1000 ppm, ça faut expliquer ce que c'est, parce que ça, moi je ne sais pas ce que c'est qu'un ppm pour le coup.
Ah oui, alors c'est des particules de CO2 par minute, c'est la concentration du CO2 dans l'air ambiant. Vous avez des capteurs de CO2 qui valent 50€ sur le marché, vous le mettez dans votre studio et vous regardez à combien vous êtes.
Ça,
si,
c'est
vous êtes si vous êtes entre 600 et 800, il n'y a aucun souci, continuez, c'est pas
problème. Et ça, on achète ça où par exemple, un capteur de CO2?
Il y en a sur Amazon. Il faut que l'Europe dise, dans tous les lieux recevant du public, il faut des capteurs de CO2 en continu.
Et ensuite, c'est la première fois que j'entends ça.
Et ensuite, il faut interdire aux gens de se rassembler s'il y a plus de 800 ppm
ou
de
1000. Mais en plus, on pourrait imaginer entrer tous dans un cinéma, dans un théâtre, où ça soit affiché. Le capteur de CO2, par exemple, il peut être en permanence donné
Et en permanence. C'est une donnée recueillie en permanence. Ça ne coûte rien, vous savez. C'est très, très facile.
C'est très intéressant ce que vous
dites. Et en fait, après, on ne peut pas toujours ouvrir les fenêtres. Dans un studio, vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. Il y a des purificateurs d'air dont il y a deux chercheurs de l'Université de Californie qui ont mis au point un purificateur d'air très bas coût, très faible coût, qu'on fait soi-même, si on veut, enfin qui existe sur le marché aussi, et qui est extrêmement peu cher, qui a très peu d'empreinte carbone parce que c'est un ventilateur, c'est pas du tout un climatiseur, hein, et qui est équipé d'un filtre qui permet de vous enlever le coronavirus de la pièce. Si on avait des normes qui disaient on ne peut pas recevoir du public au-dessous de 600, 800, je sais pas, 1000 ppm, on diminuerait de façon très importante le nombre de contaminations.
Avec M. Flau, beaucoup de gens qui sont vaccinés, et c'est une question importante que je vais vous poser, est-ce qu'au fond, cette flambée révèle que la vaccination ne stoppe pas la transmission ?
Ah oui, on peut clairement dire que cette flambée que l'on voit dans des pays où il y a une forte couverture vaccinale révèle que la vaccination n'arrive pas à contrer la transmission.
Mais quoi bon se faire vacciner ? C'est une question qui revient...
Notamment pour ceux qui ne finissent jamais en réa.
Oui,
c'est ça la difficulté, et notamment les plus jeunes.
Alors, on ne peut pas être totalement manichéen. Vous savez, en santé publique, des mesures qui permettent de diminuer de 30%, de 40%, de 50% sont bonnes à prendre. Malheureusement, elles ne suffisent pas à enrayer les vagues. Vous savez, le vaccin contre la grippe n'a jamais réussi à enrayer les vagues de grippe saisonnière. Et pourtant, le vaccin sauve des vies. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un vaccin qui sauve des vies. Il faut qu'on se vaccine tous parce que on ne bloque pas la transmission. Vous l'avez très bien dit, mais on limite un peu la transmission, et le travail qui reste à faire est un travail, un chemin moins long, moins ardu. Je parlais de la ventilation parce que ça n'obère aucune des libertés publiques et ça ne nous empêche pas de continuer à nous rencontrer. Je pense que la ventilation, il faut l'installer et l'instaurer rapidement, une ventilation efficace des locaux. Mais la vaccination, le port du masque sont des outils très très précieux qui contribuent à faire baisser les contaminations et à faire baisser le risque de se retrouver à l'hôpital.
Merci Monsieur Flau, merci de ces précisions, merci beaucoup et à très bientôt sur l'antenne d'RTL.
Merci.
Dans un instant, tout autre chose, on parle pouvoir d'achat, comment augmenter les salaires. C'est le deuxième débat d'RTL Midi, à tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
C'est le premier travail, je suis assistante maternelle et du coup je garde des enfants la journée. Donc en fait de 8h à 17h45, j'ai des enfants des autres.
Un travail qu'elle adore mais qui ne suffit pas, alors cette maman courage enchaîne dans la foulée une soirée de livraison.
Je pars en vélo pour faire ma deuxième journée de travail via Uber Eats en livraison. Il est 19h, j'enchaîne pour les repas et je pense que je vais arrêter autour de minuit.
Comme Émilie, de plus en plus de Français sont obligés d'avoir non pas un, mais deux emplois pour boucler leur fin de mois. Alors que faire ? Comment augmenter les salaires ? On prolonge sur RTL notre journée spéciale pouvoir d'achat. Bonjour Sylvain Maillard.
Bonjour.
Vous êtes député La République En Marche de Paris, membre de la commission des affaires sociales. Merci d'être en direct avec nous dans le studio d'RTL. Une assistante maternelle obligée de faire des livraisons de repas le soir, obligée de faire deux fois 35 heures par semaine pour toucher, dit-elle, 2000 euros net par mois. Est-ce que ça vous semble normal ?
Il y a beaucoup de situations extrêmement difficiles, en France comme ailleurs d'ailleurs, hein, où il y a un cumul de travail, il y a même des salariés, vous le savez parfaitement, vous les entendez, vos auditeurs vous appellent pour vous dire, des salariés qui n'ont pas les moyens de se loger alors qu'ils travaillent et qu'ils perçoivent un salaire. Donc oui, il y a des situations extrêmement difficiles. Il y a différents cas, vous mentionnez celui-là, je ne connais pas le détail, on ne connaît pas aussi les centres de coûts, le logement, où est cette personne.
C'est une maman avec trois enfants.
Voilà, alors effectivement, vous avez aussi des loyers qui ne sont pas les mêmes. Moi qui suis député de Paris, vous n'avez pas les mêmes loyers à Paris qu'en Grande Couronne. Mais dire qu'une assistante maternelle à Paris, par exemple, ne peut pas vivre à Paris, c'est le cas. Et donc, ça désorganise déjà le système, puisque à partir de 18h30, il faut absolument fermer l'ensemble des haltes garderies, par exemple, parce que ces dames, souvent, ce sont des femmes, sont obligées de rentrer chez elles et qu'elles habitent loin. Et donc, on voit bien qu'il y a une désorganisation du fait du coût, entre autres, du coût du loyer. Donc, il y a vraiment dessus.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire, du coup ?
C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas de réponse universelle à vous donner. Revaloriser le travail, ça c'est vraiment le cœur de la politique urbaine depuis 2017. On va pouvoir peut-être en parler à travers cette émission sur les différentes mesures que nous avons prises. Mais le travail doit payer plus.
Mais il y a une mesure
et qu'à l'heure actuelle, il ne paye, pour partie des salariés français, ne paye pas assez.
Il y a une mesure simple, c'est relever le SMIC. Et ça c'est très simple, si vous l'augmentez de 10%, le pouvoir d'achat, il augmente demain.
Pascal Praud, d'abord, tous les salariés ne sont pas au SMIC. Et moi, je pense, la dame dont vous parlez n'est pas au SMIC. Elle gagne plus que le SMIC. Et donc, il y a toujours, vous avez raison, on parle toujours, dès qu'on parle de pouvoir d'achat, on dit revalorisation du SMIC. ça peut être une porte d'entrée, mais enfin qu'on soit très clair, 75%, j'ai pas le chiffre en tête, je crois que 75% des salariés en France gagnent plus que le SMIC. Et donc il n'y a pas que le problème du SMIC. Les gilets jaunes qu'on a vus autour des ronds-points, pour une grande partie d'entre eux gagnaient 2000 euros. D'ailleurs, c'est exactement le cas que vous prenez de la dame.
Ouais. En 2000 fait, euros. C'est ça. Quand on entend la majorité depuis plusieurs semaines nous dire que pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, les Français ont gagné en pouvoir d'achat.
Mais c'est vrai.
C'est vrai pour les plus modestes, c'est vrai aussi pour les plus riches. Et on a l'impression que c'est moins vrai pour cette France qui travaille, qui gagne effectivement entre aux alentours de 2000 euros net et qui a vu tout le reste augmenter et donc qui, à l'arrivée, a l'impression qu'ils ont beaucoup moins à la fin du mois.
Je vous prends juste un exemple. Par exemple, la taxe d'habitation. On a supprimé la taxe d'habitation. C'est des plusieurs centaines d'euros donnés à 80% des Français.
Vous pourriez supprimer la taxe de l'audiovisuel.
Une fois.
En fait, les seules choses que vous pouvez supprimer.
Vous savez qu'on peut supprimer beaucoup de choses. La seule chose, moi, on me dit supprimer, par exemple, baisser les taxes sur les produits pétroliers. Par exemple, vous enlevez la TVA. Vous dites, très bien. N'oubliez pas, la TVA nous permet, c'est ça qui nous donne d'ailleurs le plus d'argent dans notre budget, c'est ce qui permet aussi de payer les assistantes maternelles d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. À un moment, il y a une entrée, il y a une sortie. Moi je veux bien qu'on nous dise, et c'est ce qu'on a fait, on a baissé énormément les impôts des Français, mais aussi les impôts des entreprises.
Les gens dont on parle ne payent pas d'impôts, vous le savez bien. Pas d'impôts, il y a un Français sur deux qui ne paye pas d'impôts. Mais si vous voulez augmenter le pouvoir d'achat, effectivement la taxe d'habitation c'est une bonne mesure, mais la taxe de l'audiovisuel, je crois que c'est près de 200 euros par an, vous la supprimez.
On peut discuter sur n'importe quelle taxe.
J'ai envie de dire que la marge manœuvre d'un gouvernement, c'est principalement de supprimer des taxes, parce qu'autrement, vous n'allez pas demander aux salariés d'être mieux payés autrement.
Pascal Praud, après, il faut compenser. Moi, vous savez, je fais partie de ceux qui essayent d'expliquer aussi que l'école est gratuite en France, mais elle a un coût. C'est-à-dire qu'un enfant, je connais les chiffres de Paris particulièrement, mais un enfant en maternelle, ça coûte à la collectivité 7000 euros par an.
Mais alors vous dites il ne faut pas tout attendre de l'État, c'est ça ?
On parlait de l'assistante maternelle, un berceau à Paris coûte entre 12 et 18000 euros par an. C'est ça aussi que ça coûte. Donc à un moment, il faut qu'il y ait des impôts, de la TVA, parce que le gros du prélèvement, c'est la TVA. Il faut qu'à un moment, on puisse, pour garder notre niveau social et nos aides, l'ensemble de ce qui nous permet de faire société, il faut qu'il y ait une rentrée d'argent. Après, on peut discuter de tout.
En tout cas,
il y a probablement
concret,
des bonnes formules.
On parle depuis 3 minutes, vous ne m'avez rien proposé.
Mais écoutez,
les gens nous écoutent, ils se disent comment le pouvoir d'achat peut-il augmenter ? Je vous ai proposé deux ou trois choses, vous avez dit c'est possible.
Alors, je vais revenir dessus, pardon, j'ai essayé de développer les questions. Sur le SMIC. Le SMIC, vous avez parlé, il faut augmenter le SMIC.
Non, j'ai dit c'est une possibilité.
90 euros, une prime d'activité depuis maintenant plus d'un an et demi, 90 euros supplémentaires pour l'ensemble des salariés au SMIC. Mmh. C'est la prime d'activité. Ça, c'est du concret. Les heures supplémentaires défiscalisées, ça, c'est du concret. C'est 200 euros en moyenne pour ceux qui les perçoivent. C'est du concret. Il y a beaucoup de choses. La taxe d'habitation, c'est du concret. Quand on a le chèque énergie, c'est du concret. Moi, je veux bien dire que ça ne suffit pas.
Les impôts fonciers,
en attendant, c'est du concret.
La taxe d'habitation, c'est bien, mais tout le monde te dit les impôts fonciers ont vrai ou pas ?
Alors ça, c'est à la disposition des maires. Ça ne dépend pas du gouvernement.
Et
deuxième chose, ça ne touche pas les mêmes personnes, Pascal Praud. Ou Amandine Bégaud, ça ne touche pas les mêmes personnes. La taxe foncière, la taxe d'habitation.
Non. En partie.
En partie, mais vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes bases de taxation.
On leur reprend du côté de la taxe foncière.
Ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les cas dont vous nous parlez, des gens au SMIC, en règle générale, n'ont plus de taxes d'habitation et en règle générale n'ont pas de taxes foncières.
Bon, vous êtes député en tout cas de La République En Marche, vous voulez rester quelques secondes avec nous ?
Mais avec plaisir.
Vous voulez que les auditeurs vous posent des questions ?
Je suis venu pour ça.
Eh bien écoutez, très bien, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait, et les auditeurs ont peut-être des idées, qu'est-ce qu'il faudrait pour augmenter le pouvoir d'achat ? Forcément, vous n'avez pas les moyens d'augmenter les salaires dans les entreprises, mais vous pouvez enlever certaines taxes.
Oui.
Quelles sont ces taxes ? La parole est aux auditeurs. À tout de suite.
RTL Midi.